France Culture, grand reportage, Catherine Pétillon.
Ils nous critiquent en permanence, c'est comme avec les embarcations, là, les gens qui arrivent sur les bateaux. Pardon, mais pour quel motif on devrait tous les accueillir ? Il faut rappeler que les Français n'ont pas pris la Joconde. C'est Léonard qui n'a jamais voulu s'en séparer et qui l'a lui-même apportée en France.
Notre stéréotype, c'est les Français sont stronzi, arrogants, impétueux, ils ont la puzza sotto il naso, c'est-à-dire on a toujours l'air d'être un peu dégoûté, quoi, on est un peu précieux.
Le geste était inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Début février, la France a rappelé pendant une semaine son ambassadeur en Italie, Christian Masset, une réponse aux déclarations outrancières et aux provocations du gouvernement italien. La crise diplomatique couvait depuis le printemps et l'arrivée au pouvoir en Italie d'une coalition populiste entre la Ligue de Matteo Salvini et les antisystèmes du mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio. Depuis, les relations franco-italiennes ne cessent de se dégrader. Parmi les grands thèmes de conflit, la question migratoire. Quand au mois de juin, l'Italie refuse d'accueillir le navire Aquarius et les 630 migrants à son bord, Emmanuel Macron dénonce le cynisme et l'irresponsabilité de son gouvernement avant de parler de la lèpre qui monte en Europe, provoquant la colère du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini. En ce début d'année est arrivée l'incursion de trop, le soutien de Luigi Di Maio aux Gilets jaunes et sa rencontre sans prévenir les autorités françaises avec ceux qui constituent une liste pour les européennes. Tous ces récents heurts et tensions s'inscrivent dans une longue histoire commune entre la France et l'Italie, une histoire faite de proximité politique et culturelle, mais aussi de tensions récurrentes. Elles sont aujourd'hui politiquement instrumentalisées et plus encore à mesure qu'approchent les élections européennes. Où en sont les relations entre nos deux pays ? France-Italie, nous nous sommes tant aimés. C'est un reportage signé Louise Baudet. Dans un grand reportage de magazine de la rédaction de France Culture, nous recevons aujourd'hui Marc Lazard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, politologue, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po. Et votre prochain ouvrage, Peuplocratie, les métamorphoses de la démocratie, coécrit avec Ilvo Diamenti, paraîtra le 21 mars aux éditions Gallimard. Alors nous allons écouter ensemble le reportage de Louise Baudet. Louise, bonsoir.
Bonsoir Catherine.
La crise est politique, diplomatique, est-elle aussi sentimentale ?
Mais c'est vrai qu'il est tentant de filer la métaphore amoureuse dans le lien qui nous unit aux cousins italiens. Relève de la jalousie, de l'admiration, du dépit, de la frustration. Relation complexe, façonnée par l'histoire, exacerbée, on va l'entendre, par le fait migratoire. Interroger ce sentiment anti-français qui affleure en Italie suppose de traverser la frontière et les frontières entre le sport, la culture, les travaux publics et la politique. Occasion de croiser des cousins qui ne nous aiment pas, mais aussi, je vous rassure, beaucoup de francophiles.
On part tout de suite avec vous, direction l'Italie.
Soir de match dans un bar de Rome, 8e de finale de Ligue des Champions, la Roma reçoit le FC Porto. Les buts sont salués comme il se doit, mais pour le reste, Daniele, Emiliano, Emanuele et les autres ne sont pas des tifosi tout à fait ordinaires.
On est à San Lorenzo, c'est un quartier de Rome à côté de la gare Termini, dans un bar où on regarde les matchs de la Rome tous les semaines ensemble entre potes. C'est un club, une espèce de club, même si c'est ouvert à tout le monde. Et avec mes collègues, on fait un commentaire qu'on est pro, mais nous on n'est pas pro, quoi.
Le commentaire, il est diffusé ?
Il est diffusé dans la salle, oui, oui. Heureusement, il n'est pas diffusé ailleurs parce qu'on aurait des problèmes peut-être. On fait un tout petit peu trop de blagues et de l'ironie, un peu de légèreté qu'en Italie, c'est pas facile à trouver sur le foot. On est très sérieux quand on parle de foot en Italie et ici on peut être léger.
Comment expliquer que l'été dernier, les Italiens ont soutenu la Croatie et pas la France en finale ?
Mais parce que je crois qu'il y a une rivalité historique, c'est vraiment le derby classique France-Italie. Et donc, quand la France joue, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami et on soutient la Croatie. C'est comme ça que ça s'est passé.
Fa male di dire che la Francia era più forte?
Non, non.
Mais si, ça fait un peu mal.
Après, l'Italie n'était pas au mondial et c'est ça qui fait mal, c'est ça la vraie douleur. C'est ça le vrai coup au cœur.
Oh,
Francia 98, Euro 2000, poi il 2006.
La victoire de la France en 98, l'Euro 2000, la finale en 2006. Il y a une histoire footballistique très intense et ça aide un peu à créer du conflit entre la France et l'Italie. Ensuite, il y a une proximité culturelle. La France et l'Italie sont en compétition sur tellement de choses, le vin, la haute cuisine, la culture. Nous sommes des pays tellement proches, du coup, on se regarde parfois d'un mauvais œil.
Plutôt le traumatisme, c'est en 2000, le championnat d'Europe en 2000, après que la France avait déjà gagné en 98, on est arrivé en finale, l'Italie a gagné jusqu'à la dernière minute, Trezeguet l'a mis en deux buts, et la France elle a gagné au Golden Goal, donc c'est plutôt ça. Mais il n'y a pas besoin vraiment d'un traumatisme pour avoir un conflit entre Italie et France sur le football. Ça peut arriver vraiment partout, même des hommes de 50 ans qui gagnent beaucoup d'argent, ils peuvent être superficiels et parler mal de la France à travers le foot, mais pas seulement. En Italie, on part du football pour aller aux tripes des gens. C'est pas ce que moi je veux faire, parce que le football, il a une noblesse. C'est quelque chose qui apprend le respect, qui apprend aussi l'expertise technique, tactique. Et donc voilà, c'est pas un sujet à utiliser pour faire devenir les gens un peu plus superficiels. Voilà, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent s'attacher à la partie plus superficielle des gens. À je suis pour ou contre, comme si c'est toute la vie c'était être pour ou contre.
Ce gouvernement, en particulier, fonctionne médiatiquement parce qu'il réussit toujours à trouver un ennemi. Et la France, vu tout ce qu'on vient de se dire, c'est, comment dire, un objet facile à instrumentaliser. Le gouvernement fait la même chose avec les immigrés, avec tout ce qui peut lui servir d'ennemi et lui permettre de s'abriter des critiques.
Buonasera. On s'assoit par là ?
Ouais, on se met là. Ici, c'est un bar... C'est un des hauts lieux de la vie de San Lorenzo, un peu gauchiste, un peu cool, quoi.
Alors moi, je m'appelle Hugo Hanoun, j'habite à Rome depuis 2006, donc ça fait 12 ans que je suis ici. J'ai 34 ans, je suis ingénieur du son et je suis arrivé ici un peu par hasard, en fait, comme beaucoup de Français pour une fille à la base. Et après, je suis resté, quoi. Je me suis carrément innamorato de la ville, tombé amoureux de Rome. Donc voilà, c'est souvent comme ça, on arrive par amour et on reste par amour, mais de la ville. Il y a plusieurs petits chocs qui se sont passés. Il y a eu les déclarations de Macron vis-à-vis de la crise des migrants, qui a été un grand tollé ici, quoi. Il y a eu vraiment des gens qui sont montés à la tribune pour vraiment tirer sur la France. Si vous ajoutez à ça qu'on a gagné la Coupe du Monde, cette année, ça a été un peu dur. Pour nous, surtout qui sommes des gens comme moi qui sont en full immersion, qui aimons être mélangés, disons, faire une vie d'autochtone ici, c'est vrai que j'ai reçu quelques réflexions et j'ai senti qu'un climat était quand même un peu mauvais, quoi. Le stéréotype de l'italien pour le français, c'est quelqu'un de sympa, marrant, avec les lunettes noires et compagnie. Par contre, nous, notre stéréotype, c'est les Français sont stronzi, c'est-à-dire arrogants, impétueux. Ils ont la puzza sotto il naso, c'est-à-dire on a toujours l'air d'être un peu dégoûté, quoi. On est un peu précieux. Stronzi, c'est connard. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ouais. Je me rappelle d'un truc. C'est mon premier employeur ici à Rome. Au bout de 2 semaines. M'a dit « Hugo, c'est incroyable, tu es le premier Français qui n'est pas un stronzo que je connais. » Et voilà, ça m'a un peu marqué, je comprenais pas. Et en fait, j'ai compris au bout de quelques années qu'il y avait ce stéréotype qui planait sur les Français, en fait.
Jean-Pierre Darnis, je suis maître de conférences à l'Université de Nice, où je dirige le master en relations franco-italiennes. Et puis, je suis aussi conseiller scientifique ici dans un centre d'analyse, un think tank, qui s'appelle l'Institut des Affaires Internationales, l'IAI, à Rome. Et donc, je suis basé dans mes fonctions universitaires en France, mais je fais des allers-retours très très fréquents en Italie. Donc, je suis en bande de perpétuels allers-retours entre les deux pays, qui pour moi se confondent un petit peu.
Il existe ce sentiment anti-français, ici en Italie ?
Oui, il existe. Il a toujours existé, il a existé pour des raisons historiques. Ça commence à la Révolution française, les campagnes napoléoniennes, l'intervention de Napoléon III en soutien du royaume de Piémont-Sardaigne contre les Autrichiens dans l'unité d'Italie, la politique coloniale française qui en 1881 prend le contrôle de la Tunisie alors qu'il y avait des Italiens établis, ce qui suscite un fort ressentiment italien, les problèmes de revendication coloniale de l'Italie après la Première Guerre mondiale déçus, et puis l'entrée en guerre de l'Italie en 1940 alors que la France avait déjà subi une lourde défaite, le coup de poignard dans le dos, comme on l'a appelé la presse de l'époque. Donc il y a vraiment une histoire compliquée, mais qui, au-delà de ces périodes de crise qui sont certes fortes et symboliques, est marquée par l'intégration, l'émigration, en particulier au cours du XXe siècle, migration italienne en France très très forte, et dont des histoires familiales très importantes. Ce sont des pays qui sont très intégrés. L'économie aujourd'hui nous le montre bien, puisque ce sont les deuxièmes pays en termes d'échanges derrière l'Allemagne, c'est-à-dire ce sont les deuxièmes partenaires commerciaux réciproques. Il y a une intégration énorme, à la fois industrielle et commerciale, entre la France et l'Italie.
Mais au quotidien, en Italie, ici à Rome, est-ce qu'on sent cette animosité, finalement, vis-à-vis de la France, vis-à-vis du président français ou vis-à-vis des Français ?
Oui, on la sent dans cette période qui est assez particulière, qui depuis 2011, avec la crise libyenne, a fait de la référence française un problème. Le refus ou la remise en cause de l'accord entre Fincantieri et les chantiers de l'Atlantique STX qui avaient été négociés avant l'élection d'Emmanuel Macron. Et cette décision de remise en cause a été perçue comme un affront, comme une gifle, moralement injustifiée quelque part, par l'Italie dans son entier. Et depuis l'élection d'Emmanuel Macron, 2017, on est dans ce problème critique qui est alimenté aussi par une équation qui ferait de la France une co-responsable de la crise migratoire que l'Italie a subie à la suite de l'explosion de la Libye. Et donc on a ce ressentiment qui se greffe sur une vieille image d'arrogance française ou de défiance vis-à-vis des Français dans des temps un peu plus pacifistes. C'est, comment vous dire, une façon de plaisanter. Quand les dossiers se durcissent, comme au cours des derniers mois, ça peut devenir une forme de racisme ou de xénophobie anti-française.
Vous le ressentez dans vos conversations avec vos amis italiens, où vous entendez parfois des remarques de chauffeurs de taxi dans les magasins ?
C'est quelque chose qu'on a vu apparaître ça l'année dernière en particulier. Il y a eu une campagne électorale très forte avec la Lega qui, par la bouche de Matteo Salvini, se faisait le champion d'un modèle anti-français, anti-Macron. Et c'est vrai que la question de la migration est tellement forte et la responsabilité qu'on veut attribuer aux Français est nette dans ce dossier-là. Tout ça faisait que, bah oui, des chauffeurs de taxi ou d'autres peuvent émettre maintenant des jugements anti-français qui n'ont certainement pas de véritable fondement lorsqu'on va un petit peu chercher les choses dans leur fond, mais qui sont exprimés.
Et da quanto tempo fa il taxi?
Je suis taxi depuis une vingtaine d'années. Nous sommes des gens normaux, humbles, qui travaillons. Nous demandons simplement la justice. Pourquoi en Europe on devrait être traité différemment des autres? Ils nous critiquent en permanence. C'est comme avec les embarcations, là, les gens qui arrivent sur les bateaux. Pardon, mais pour quel motif on devrait tous les accueillir? On partage un peu chacun ces dépenses qui sont énormes. Il faut les diviser entre nous tous. Le gouvernement italien, et tous les Italiens d'ailleurs, ne sont pas contre les migrants. Nous sommes contre les injustices. Nous savons très bien que si nous les prenons tous, où est-ce qu'on va finir? Ce sera une situation intenable. Alors, si on veut sauver ces pauvres gens, dans le cas où il faut les sauver, quand ils ne sont pas délinquants ou je ne sais quoi, alors il faut faire un peu chacun, il faut partager les charges. Salvini, il n'a pas fermé les ports, il a essayé de stopper cette immigration sauvage. Et puis, pourquoi, alors qu'il y a tant de ports plus proches, il les amène chez nous? Ça n'a pas de sens. C'est une responsabilité à partager et un engagement à prendre tous ensemble.
D'après vous, qui a commencé? C'est Macron ou c'est Salvini et Di Maio?
Il n'y a pas de début bien défini. Il y a eu une divergence d'idées déjà, à la base.
Selon vous, Salvini et Di Maio ont eu raison de dire ce qu'ils ont dit à Macron.
Et ils ont dit quoi? Au Parlement européen, on a dit à notre Premier ministre qu'il était un pantin. C'est du joli, vous ne pensez pas? On ne peut pas dire à Salvini qu'il est raciste ou je ne sais quoi, parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous, on a toujours assisté les migrants. On les a soignés, on les a sauvés, on les a hébergés de la meilleure façon possible.
On
Bardonecchia, 30 mars 2018. Des douaniers français font irruption dans le local d'une ONG située dans la gare, la dernière avant la frontière. La presse italienne accuse Emmanuel Macron de jouer les caïds. L'envahisseur, titre un journal régional. Opinion publique indignée, ambassadeur français convoqué, crise diplomatique vouée à s'amplifier. Un an plus tard, les douaniers français ne descendent plus à Bardonecchia, mais les migrants continuent à tenter la traversée. Le 7 février dernier, un Togolais de 28 ans est mort d'hypothermie près du village de La Vachette en France, si loin, si proche.
Je m'appelle Sylvia Massara, j'habite ici depuis toujours. Je suis prof au lycée et simplement j'habite là. Et donc si on habite là, on voit et on fait quelque chose. Ici à Bardonecchia, tout a commencé en 2017. Il y a eu beaucoup de gens pendant l'été qui arrivaient toutes les journées, qui partaient à pied jusqu'au col de l'Échelle qui est là.
De l'autre côté,
c'est la vallée de Névache qui descend sur Briançon, la vallée de la Clarée. Le chemin est très long, mais il était moins contrôlé parce qu'il n'y a pas de poste de gendarmerie fixe. Donc ils ont commencé à passer par là tout l'été. Et puis on a eu un hiver incroyablement neigeux, beaucoup beaucoup de neige. Les gens s'abritaient comme ils pouvaient dans l'escalier de la gare. Puis ensuite la gare a commencé à être fermée, et donc la nuit c'était dans la rue. Puis la gare a été fermée le jour aussi, et donc ça a évidemment déclenché l'urgence de résoudre le problème. Et donc à partir de 8 décembre 2017, l'ONG Rainbow for Africa est arrivée, et donc ils arrivaient le soir. Ici, nous, on les accueillait un peu. Il y a tout un réseau de bénévoles qui montaient de la vallée pour donner à manger, pour aider, pour porter des vêtements. Et ça a commencé comme ça. Donc l'hiver passé, ça a été comme ça, ça a été ici. Petit à petit, le col a dû être abandonné puisqu'il y a des avalanches. Et alors les jeunes ont commencé à passer par le Mont Genèvre. Et passer pour le Mont Genèvre veut dire partir de Oulx. À Oulx, il n'y avait rien, donc au mois de septembre, un centre a ouvert à Oulx maintenant. Et puis, il y a tous ceux qui essaient de passer par le tunnel du Fréjus, en train ou en bus. Et donc, le soir, ici à Bardonecchia, c'est plutôt ceux qui essaient de passer par le tunnel. Et à Oulx, c'est plutôt ceux qui essaient de passer par le col du Mont-Genèvre.
Ici, il y a un an, les gendarmes français sont venus jusqu'ici alors qu'ils n'en ont pas l'autorisation. Ça a déclenché
Ils ont demandé d'entrer, on leur a dit non, et ils sont entrés quand même. Ils voulaient faire un examen des urines d'un jeune. Et donc cela a évidemment provoqué un peu la colère en général, parce que la petite salle est un lieu sûr, disons, c'est un peu comme la Croix-Rouge, on n'a pas le droit d'entrer avec la force.
Du coup, parmi la population, des gens comme vous qui vous mobilisez pour essayer d'aider les migrants, quelle vision vous avez des forces de police et de gendarmerie françaises?
On sait qu'il y a beaucoup d'injustices qui sont commises, au moins sur la frontière de Mont-Genèvre sûrement. Beaucoup de jeunes qui ont des papiers qui sont modifiés, qui n'ont pas de droit à interprète, qui sont refoulés sans la période d'attente qu'ils devraient avoir, par exemple. Il y a eu plusieurs épisodes pas très corrects, absolument pas corrects.
Il y a encore un jeune qui est mort la semaine passée. Est-ce que vous avez idée du nombre de gens qui essayent de passer par le Mont-Genèvre chaque nuit?
Chaque nuit, le Mont-Genèvre, ça veut dire entre 4, 5, 6 personnes et 30 personnes, peut-être. Ça dépend des jours. Avec des victimes, oui, parce que le jeune qui est mort la semaine passée, c'est qu'il est descendu dans la neige, il a perdu ses chaussures. Il est arrivé en bas à la Vachette, il a demandé du secours avec son groupe. C'était la nuit, il n'a rien trouvé, les voitures qui ne s'arrêtaient pas. Il paraît que l'ambulance est arrivée 2 heures plus tard que l'appel au 112. Et donc 2 heures là au bord de la route à 3 heures du matin, complètement gelé, ça a provoqué sa mort. C'est avec toutes nos forces, des deux côtés, on essaie de les convaincre de prendre les bus le matin, l'après-midi s'ils veulent. Si vraiment ils désirent de passer pendant la journée, mais pas le soir. Parce que c'est trop, trop froid, c'est trop dangereux. C'est des montagnes sur lesquelles on s'amuse. Et de notre côté, c'est des montagnes sur lesquelles on meurt. Et donc là, c'est un drame qu'on vit tous les jours. Oui, absolument. Ceux qui veulent voir, ils voient beaucoup ce drame. Ceux qui ne veulent pas voir, eh ben, la montagne reste un lieu de tourisme. Voilà, là on a le médiateur, Abdoulaye.
Bonsoir. Et qui est Louise Baudet?
Je vais vous demander à Abdoulaye. Précisément, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis en Italie depuis 2016.
Parmi les gens qui arrivent ici, il y a les Albanais, les Pakistanais, les Ivoiriens, les Maliens, les Nigériens. Ici, notre action consiste à informer, orienter rapidement pour évacuer les personnes, ne pas les permettre de s'immobiliser ici. Parce que ceux qui viennent du Flexbus, donc de Trafford, que la police française les arrête du bus qui viennent descendre ici. Nous essayons de les orienter rapidement, qu'ils soient dans un groupe de 4, de 3, faire la première demande, tu as quel document et tu viens de quel pays, essayer de voir s'il a une autre possibilité de partir directement à Torino et de prendre le vol, parce que la police française bloque les gens ici qui ont même le permis de séjour avec leur passeport, ils ne les laissent pas rentrer. Et là, on peut lui dire, bon, va prendre le vol ou oriente-toi diversement pour pouvoir rentrer en France, pour aller faire ce que tu veux et te retourner.
À 10 km en aval, Oulx.
You understand me? Hein? They have somewhere to sleep.
Deux hommes viennent de descendre du dernier bus en provenance de Turin. La nuit, le froid, la méfiance, jusqu'à nier l'évidence.
I don't want to go to France.
No, you want to stay here in Italy?
Vous voulez rester en Italie?
Oui, on ne veut pas se tuer ou créer des problèmes dans ce pays. Par la grâce de Dieu, ils me donneront des papiers.
Oui, c'est mes filles parce que tu vois, c'est normal. Parce que ce n'est pas facile de voir quelqu'un comme ça s'approcher à côté de toi et... Et puis tu dis, il y a une place comme ça, tu peux venir, là-bas t'asseoir. Bon. Moi je m'appelle Roméo, je suis camerounais. Bon, il y a eu une manifestation en 2008 au Cameroun où j'ai participé. Et puis il y a eu beaucoup de tueries, on a tué beaucoup de gens et moi je suis à m'échapper. Et puis je suis arrivé en Libye, et j'ai commencé à travailler. Mon intention était de faire une vie. Bon, quand il y a eu la guerre en Libye, moi je ne pouvais plus rentrer au Cameroun. Alors j'ai décidé de traverser pour l'Italie. Moi je suis arrivé en 2011. J'ai fait un parcours comme tous ceux que je vois ici. Et puis j'ai eu les documents en 2014. Et puis j'ai fait les papiers. Et puis j'ai fait une formation de médiateur culturel, quoi. Et le document que j'ai, peut-être un lendemain, on pourrait me le retirer. Vu que maintenant, il est en train de retirer l'humanitaire, je ne suis pas différent de ce qui passe ici. Un jour, je ne sais pas où, un jour, moi aussi, je me mettrai les chaussures et... Pas parce que moi, je ne veux pas rester à l'intérieur, peut-être parce que, peut-être, je n'aurai plus les documents. Merci.
La frontière infranchissable pour les uns, quand d'autres cherchent à l'abolir. Ceux-là rêvent d'un nouveau tunnel, 57 km à travers le massif du Mont-Cenis, une ligne Lyon-Turin qu'ici on appelle TAV, Treno Alto Velocità, train grande vitesse, mais chantier en suspens. La France réclame sa poursuite, l'Italie hésite.
Alors moi je suis Pier Giuseppe Gilli et je suis directeur construction sur tous les chantiers de TELT, côté France et côté Italie.
Alors là, où sommes-nous exactement?
Donc là, on est dans le chantier de la galerie de reconnaissance de la Maddalena. On a commencé le travail en 2012 et on l'a terminé en 2017, février 2017. C'est une galerie de reconnaissance longue 7,20 km pour un diamètre de 6 mètres. C'est une galerie pour faire un test avec le tunnelier et pour voir les conditions géotechniques et géomécaniques du terrain. Maintenant, on est en train de rentrer dans la galerie de reconnaissance. Ça deviendra une galerie de service pour la construction du tunnel de base. Donc là, on est en train d'aller vers la France, presque à le confine di Stato, à la frontière entre France et Italie.
Combien de personnes travaillent actuellement sur le chantier ?
À la Maddalena, 30 personnes.
Mais essentiellement des travaux de maintenance, du coup, pour l'instant.
À la Maddalena, c'est des travaux de maintenance. À Saint-Martin-la-Porte, c'est des travaux de construction du tunnel de base. On a, en quelque manière, les avis de marché qui sont congelés en ce moment. Attention qu'il y a de l'eau.
OK.
Il y a un petit peu de bruit.
Où sommes-nous exactement?
Là, on est dans la niche APK 2008. Il y a des vasques qui prennent l'eau qui arrive du fond de la galerie et ils le font sortir avec des pompes à l'extérieur. On a encore plus de 4 km pour arriver à la fin du tunnel. Là, on est avec une couverture de 1000 mètres au-dessus de la montagne du massif d'Amban. mais on n'est pas encore à la frontière.
Et là, on repart en sens inverse et donc en marche arrière.
Ouais, parce que la galerie, elle est très petite et les voitures, ils n'ont pas la possibilité de faire le demi-tour. Au point de vue technique, c'est sûr, c'est un chantier, c'est une expérience extraordinaire parce qu'on travaille à des profondeurs où jamais des hommes sont arrivés. Donc pour un géologue, c'est extraordinaire. Voir comment le matériel se comporte à ces profondeurs, c'est sûr ça.
Vous pouvez imaginer que finalement ça s'arrête ?
Je veux dire, les gouvernements, ils peuvent décider, donc c'est légitime. C'est sûr que ce n'est pas immédiat. Pour nous, penser qu'on tourne la clé et s'arrête. On doit étudier comment remettre, si quelqu'un décide d'arrêter, de remettre en sécurité toutes les galeries et tous les sites de chantier.
J'imagine que ce n'est pas le scénario que vous privilégiez, vous, à titre personnel.
On est des maçons, donc je ne réponds pas.
Patron de chantier prudent, opposant, déterminé. La Lyon-Turin, c'est 30 ans de lutte dans le Val-de-Suze contre un projet jugé inutile et dangereux. Un combat qui, comme souvent, a son chroniqueur scrupuleux, Mario Cavagna, président de l'association Pro Natura Piemonte, véritable mémoire des Notaves. La ligne actuelle passe sous ses fenêtres.
Mario Cavagna, buonasera. Grazie.
L'histoire de ma famille est très liée au chemin de fer. Dès la construction de la ligne en 1854, et quand elle a été ouverte en 1871, mes arrière-grands-parents expédiaient déjà leurs fruits et légumes. La ligne leur permettait d'exporter en France, à Paris et Lyon surtout. Et puis cette maison a été construite ici parce que la famille de ma mère était elle aussi liée au chemin de fer. Il y a 100 ans, les machinistes construisaient leur logement tout près de la ligne pour pouvoir aller travailler de nuit plus facilement. Donc vous voyez, mon choix ferroviaire est absolument indiscutable. Nos liens avec la France sont solides. Ils peuvent être encore décuplés sans avoir besoin d'une nouvelle ligne qui est seulement un gaspillage d'argent et qui va pénaliser les chemins de fer italiens. De façon générale, l'Italie, comme la France, est un État qui désormais a des ressources limitées. Donc si vous dépensez d'un côté, vous devez récupérer cet argent ailleurs. Et cette ligne coûte énormément d'argent. La part italienne, c'est au moins 20 milliards d'euros. C'est l'un de ces grands travaux qui, en réalité, ne servent à rien, car les liaisons actuelles sont déjà suffisantes.
Alors, il y a aussi des raisons liées à l'environnement.
Entre la France et l'Italie, ce sont au moins 40 millions de tonnes de mètres cubes de roche à extraire. Chaque million de tonnes, si vous arrivez à vous l'imaginer, c'est une des tours jumelles de New York. 50 km de large, 400 mètres de haut, donc on parle d'extraire de la montagne, de broyer, de réutiliser, de mettre à la décharge 40 tours jumelles. Cette énorme quantité de roche représente un coût exorbitant, mais aussi du côté italien, la production de poussière et surtout de substances dangereuses liées au fait qu'il y a de façon indiscutable dans le Val de Suse de l'amiante et de l'uranium.
Buongiorno, ho un appuntamento con la signora Garola. Grazie.
Giorgia Garola, je représente les jeunes entrepreneurs de la Confindustria du Piémont et je suis vice-présidente au niveau régional. Cette infrastructure, c'est le futur. On ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas revenir en arrière, sinon nous resterons avec un tunnel du 19e siècle. Les opposants parlent d'un coût de 20 milliards, mais c'est faux. On sait bien que ce sont 8 milliards et pas seulement pour l'Italie. 40% sont financés par l'Union européenne et vous aussi en France, vous prendrez votre part. Surtout, cette analyse coût-bénéfice dont il parle tant est biaisée, car on ne peut pas aujourd'hui prédire les bénéfices de demain. Cavour, quand il a construit le tunnel, n'imaginait pas les échanges qui s'y produiraient. Aujourd'hui, nous devons prendre garde à ne pas nous fermer, à ne pas fermer l'Italie aux échanges. Nous devons être un pays ouvert à toute l'Europe. Pour cela, nous devons faciliter et accélérer les transports vers l'extérieur. On ne peut pas rester replié sur nous-mêmes et nous limiter à notre marché intérieur. C'est une situation qui préoccupe beaucoup les entrepreneurs. Les infrastructures sont primordiales pour la croissance d'un pays, surtout pour l'Italie où elles ont vieilli, un pays qui doit se tourner vers l'Europe et vers le monde car notre marché intérieur est en récession. C'est la classe politique italienne d'aujourd'hui qui bloque le projet. Le problème est évidemment lié au gouvernement actuel qui a fait des promesses à son électorat et ne veut pas revenir dessus. C'est un gouvernement qui célèbre la décroissance heureuse. On ne peut pas se le permettre. Nous devons créer de la richesse, pas entrer en récession. Et les chiffres montrent que malheureusement, ce gouvernement nous mène à la récession. Les 5 étoiles disent non à tout. Heureusement, Salvini, au contraire, se rend compte de ce qui est nécessaire pour ce pays. Il se rend compte que cette structure est absolument fondamentale.
La Lyon-Turin, enjeu d'un bras de fer italo-italien, suspendu à une coalition à l'avenir incertain. Viviana Ferrero est vice-présidente 5 étoiles du Conseil communal de Turin.
C'est vraiment un dossier qui nous caractérise, nous, le mouvement 5 étoiles. Perdre cette partie de notre ADN politique nous poserait un énorme problème d'identité. La Ligue et les 5 étoiles sont deux forces politiques sûrement très différentes. Chacun fait avancer ses propres dossiers et comme dans toutes les familles, c'est le plus fort qui l'emporte. Pour Salvini, c'est probablement une façon de montrer sa force, oui, certainement. Mais c'est vraiment trop important pour le mouvement 5 étoiles qui, justement, s'appuie sur l'avis des territoires. Nous sommes en partie nés dans le Val de Suse et nous avons fait un gros travail d'identité précisément sur l'environnement, qui est l'une de nos 5 étoiles. Bien sûr qu'il y a des affrontements politiques pour faire valoir ses propres capacités, y compris oratoires parfois, mais sur le fond du dossier, sur son essence même, je pense que ce chantier doit s'arrêter.
Pendant que la Ligue et les 5 étoiles règlent leurs comptes sur fond d'élections régionales, la France s'impatiente, les dossiers s'accumulent et la querelle est aussi culturelle. En octobre prochain doit se tenir au Louvre une grande exposition célébrant le 50e centenaire de la mort de Léonard de Vinci. L'Italie menace de ne pas prêter ses chefs-d'œuvre malgré l'accord conclu par le précédent gouvernement.
On est à Milan dans le cloître de Santa Maria delle Grazie, l'église construite par Bramante à côté de la scène de Léonard. Je m'appelle Simone Ferrari et j'enseigne l'histoire de l'art moderne et des arts européens à l'université de Parme. Ce ne sont pas des sujets qui se traitent en deux phrases venues d'un ministre. Tout cela est planifié depuis longtemps. Quand les œuvres sont sur bois, il est dangereux de les déplacer. Mais nos deux pays se sont accordés depuis longtemps. Une exposition de ce genre ne peut pas se monter en 6 mois. Cela fait 5 ans qu'on en parle. Un politique peut tout à fait dire qu'il aurait été préférable de ne pas prêter les œuvres. Et on peut y penser pour la prochaine occasion. Mais s'il y a eu un accord, on doit le respecter. Sinon, on donne vraiment une mauvaise image. Et si c'est le Louvre qui demande les œuvres, enfin, elles ne vont pas dans un marché opus d'un village de province. C'est l'un des plus grands musées au monde. C'est une fierté pour nous, Italiens.
Alors, ce n'est pas la première fois que Léonard de Vinci se retrouve au milieu d'une situation pareille.
C'est vrai que dans les rapports entre la France et l'Italie, le problème de Léonard est très complexe, parce que nous reprochons aux Français d'avoir beaucoup de ses œuvres, mais ils ne les ont pas volées. Il faut rappeler que les Français n'ont pas pris la Joconde. C'est Léonard qui n'a jamais voulu s'en séparer et qui l'a lui-même apportée en France. François Ier est le premier grand souverain à avoir accueilli Léonard à bras ouverts. Donc on doit être reconnaissant envers les Français pour avoir compris et valorisé notre grand génie italien.
Mais ici, en Italie, on n'oublie pas que Napoléon a volé beaucoup d'œuvres.
Oui, c'est une perception largement répandue, mais qui est fausse. La réalité, c'est que la France est devenue une grande nation européenne 2 siècles avant l'Italie. Et donc Napoléon, même si évidemment ça nous déplaît, a pris des œuvres pour créer de beaux musées français. Mais il a aussi contribué à construire les grands musées italiens, dans un esprit de valorisation, y compris pour nous. Donc d'un côté, ça nous déplaît, mais de l'autre, on peut le remercier.
Leonardo est
Léonard de Vinci n'est pas seulement italien, il appartient au génie universel. Donc nous tous, y compris les Français, qui nous sentons ses héritiers, nous avons raison et personne ne nous l'enlèvera parce qu'il est né en Toscane. Il n'y a donc aucune raison de se fâcher ou de penser que les Français nous ont volé Léonard, parce que c'est faux.
Alors, voilà le drapeau français. C'était pas là que vous l'aviez mis au départ ?
Non, c'était là-haut. Venez voir.
Federico Borgna est le maire de Cuneo, 56 000 habitants, derrière le fronton de sa mairie, les Alpes et la France.
Vous voyez qu'il y a trois drapeaux. Le drapeau italien, le drapeau européen et le drapeau du Piémont. C'est la loi qui impose de les mettre côte à côte. J'ai enlevé le drapeau piémontais, j'ai mis le français. Je savais que j'enfreignais la loi. Et le jour suivant, le préfet qui a fait son travail m'a ordonné d'enlever le drapeau français. Je l'ai déplacé près de l'entrée de la mairie, à un endroit bien visible. Le message que j'ai voulu envoyer, c'est que les valeurs de l'Europe ne doivent jamais être mises en cause pour des motifs de campagne électorale. Ensuite, on a des relations étroites avec la France. Notre territoire a des racines communes avec la province de Digne, de Nice. Les échanges culturels, sociaux, économiques et historiques sont très importants. Alors ce geste, c'est un message adressé à tous les Français qui ont des liens avec Cuneo. C'est un message d'amitié. En ce moment, les forces qui sont au gouvernement cherchent à attirer l'attention sur la politique étrangère. Parce qu'en politique intérieure, ils ne parviennent pas à donner des réponses satisfaisantes. Et de mon point de vue, sur de nombreux sujets de politique étrangère. Je pense à cette histoire avec la France, mais aussi à l'incertitude au moment de la condamnation tardive de Maduro au Venezuela. Je pense aux doutes dans les relations avec Poutine. Sur tous ces sujets, le gouvernement se trompe. Ils n'ont pas de résultats positifs sur le plan intérieur. L'Italie entre en récession, alors ils mettent l'accent sur la politique internationale. Et c'est pour cette raison qu'ils ont attaqué Macron et la France. Pour cette raison-là.
Macron et la France, in questo senso.
È arrivato l'ambasciatore, cililili, cililela. È arrivato l'ambasciatore, cililili, cilila. Cosa vuole l'ambasciatore, cililili?
France Italie, nous nous sommes tant aimés, un reportage de Louise Baudet avec Jean-François Braun à la réalisation.
Grand reportage, Catherine Pétillon.
Et l'invité de Grand Reportage est l'historien et politologue Marc Lazard, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po. Marc Lazard, on l'a entendu dans ce reportage, les motifs de tension sont très nombreux entre la France et l'Italie sur des terrains très différents. Qu'est-ce qui finalement fait l'ossature, le point commun de cette rivalité ?
Je crois que d'abord c'est la crise politique la plus profonde depuis l'après Seconde Guerre mondiale et je crois qu'elle n'est pas prête de finir. Et je crois que dans ce reportage on a bien vu tous les éléments, c'est-à-dire il y a des éléments de la conjoncture, la question libyenne, la question de l'immigration, ça c'est deux points effectivement tout à fait importants. Je crois aussi qu'il y a, on pourrait rajouter la sensation des Italiens que, comme ils disent, les Français font leur marché dans l'économie italienne, parce qu'effectivement beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises françaises ont racheté des entreprises, des banques, des compagnies d'assurance en Italie. Et c'est plus facile de dire que c'est la France qui est responsable plutôt que d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ces entreprises italiennes aient été en difficulté. Le tout vient se greffer sur ce qui a été rappelé à plusieurs reprises dans le reportage, c'est-à-dire cette relation compliquée qui s'ancre dans l'histoire. Alors vous l'avez appelé, Louise Baudet, amitié, amour. Oui, c'est des mots forts qui caractérisent la relation. Et avec, je pense, après la Seconde Guerre mondiale, une dissymétrie dans cette relation amoureuse. C'est-à-dire que l'Italie investit beaucoup plus dans cette relation amoureuse que la France. Et on le voit très bien actuellement. Les journaux en Italie parlent énormément. On fait la une à propos du rappel de l'ambassadeur de France à Paris. En France, il y a une moindre attention. Il y a une sensibilité actuellement, pour ne pas dire un sentiment anti-français en Italie. Oui, un sentiment anti-français, enregistré d'ailleurs par des sondages. Il n'y a plus que 24% d'Italiens qui font confiance à la France, contre plus de 45% il y a quelques années. Donc, il y a des tas de petits incidents qui éclatent maintenant, qui me sont rapportés en Italie.
Mais les Français s'en fichent. Voilà, avec une forme de dissymétrie entre les deux pays.
Et qui renvoie d'ailleurs à la manière dont on a construit la construction européenne. Évidemment, la France avec son rapport privilégié avec l'Allemagne et ce sentiment pour l'Italie. Et d'ailleurs, c'est compliqué. C'est pas simplement par rapport à Paris, c'est par rapport à Bonn dans le passé, maintenant par rapport à Berlin, que l'Italie ne compte pas. Et cette idée que l'Italie ne compte pas, c'est une des constantes de la diplomatie italienne depuis l'unité italienne.
On a vu d'ailleurs récemment Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, parler à l'oreille d'Angela Merkel et lui disant, ce sont des propos qui ont été volés hein, à l'occasion d'un sommet européen, enfin d'une rencontre européenne récente, et lui disant finalement c'est avec vous qu'on veut travailler, pas avec la France.
Oui, alors voler on ne sait pas, hein, parce qu'on se demande si Giuseppe Conte serait plus stupide qu'un joueur de football, parce que même un joueur de football sur son terrain, il met la main devant la bouche maintenant. Alors est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? Bon, certains pensent qu'il l'a fait exprès.
Destiné à la vie politique intérieure.
Mais vous soulevez une question fondamentale qui est depuis la pré-seconde guerre mondiale, cette relation France-Allemagne-Italie. Et je vais vous dire, moi, quelle est ma théorie, c'est-à-dire que, et excusez-moi avec les termes que je vais employer, c'est-à-dire que la France s'est mariée avec l'Allemagne en 1963. Et les mariages durent et parfois sont un peu compliqués. Alors quand il y a un problème dans la relation franco-allemande, la France se rappelle qu'elle a une magnifique maîtresse. Et cette maîtresse s'appelle l'Italie, elle se retourne vers l'Italie. Et l'Italie est toute contente de voir que son amant ou sa maîtresse, peu importe ici les questions de genre, se retourne vers elle. Et donc, elle est toute heureuse. Mais la France ne le fait qu'avec une seule intention, de rétablir du piquant dans la relation avec l'Allemagne, mais au bon sens, pour renforcer les relations. Et ça, l'Italie ne le supporte plus. Et l'Italie, en permanence, essaye de jouer sa carte entre la France et l'Allemagne, avec l'Allemagne, avec la France. En 2008, c'était un sentiment anti-allemand terrible qui existait en Italie après la crise économique et financière.
Mais au regard de cette histoire que vous rappelez, est-ce qu'on assiste finalement avec une rupture avec l'arrivée de la coalition populiste au pouvoir, ou est-ce que finalement c'est juste un épisode de plus dans ce continuum, dans cette histoire qui avait été marquée par les tensions?
Je vous le disais tout à l'heure, c'est la crise politique la plus importante et donc c'est une rupture. Si vous regardez l'histoire récente, Jean-Pierre Darnis l'a rappelé dans le reportage dans une longue durée, mais dans une histoire plus récente, vous avez avril-juin 1945, tout le monde l'a oublié, mais l'armée française est dans le Val d'Aoste, le général de Gaulle pense s'approprier cette partie d'Italie et c'est le président Truman qui fait reculer le général de Gaulle. Puis vous avez la période des années 60 où de Gaulle a une conception de l'Europe des nations et c'est pas du tout le point de vue de la démocratie chrétienne qui est au pouvoir en Italie et qui est pour une Europe fédérale. Donc il y a des moments de tension importantes. Et puis il y a eu les gouvernements Berlusconi, ça a été aussi des moments souvent de grande tension. Il y a eu un incident que tout le monde a oublié, 1995, le président Chirac reprend les essais nucléaires et l'Italie vote une motion à l'ONU pour le condamner. Chirac est fou furieux, fait annuler le sommet franco-italien. C'était la première fois depuis 1983. Là, c'est vraiment la crise politique la plus importante. D'ailleurs, le sommet franco-italien qui devait se dérouler en 2018 en Italie ne s'est pas tenu. On me dit qu'il devrait se tenir en 2019 en Italie, puisqu'il n'a pas pu s'y tenir l'année dernière. Et les diplomates semblent être un peu sceptiques et inquiets sur la possibilité de le faire en 2019. Donc oui, il y a une rupture. Mais attention, quand on dit gouvernement populiste, c'est un gouvernement compliqué, parce que bien sûr, il y a les deux partis, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, dans un rapport très, lui aussi, compliqué entre eux, et qui explique beaucoup de tensions et qui fait que lorsqu'il y a des tensions entre eux, rien n'est mieux que de taper sur la France et Emmanuel Macron. Immédiatement, ils se réunifient. Mais attention, il y a des ministres dits experts. Le ministre des Affaires étrangères, M. Moavero Milanesi, assez discret dans cette crise, mais qui a lancé des petits messages. Le ministre de l'économie, M. Tria, qui veut à tout prix rétablir et maintenir des bons rapports entre l'économie française et italienne pour les raisons qui ont été rappelées. Deuxième partenaire commerciaux. Et puis, le président de la République, Sergio Mattarella. Et ça ne vous a pas échappé que le président Macron a appelé le président Mattarella, qu'ils ont fait des déclarations. Il va sans doute y avoir des gestes assez spectaculaires dans les semaines à venir, au début du mois de mai, et puis sans doute d'autres, pour montrer qu'au plus haut niveau, les relations sont bonnes.
Et alors parmi les gestes que certains attendent en Italie, on voit le retour de certaines crispations plus anciennes, et la question des années de plomb avec l'extradition de Cesare Battisti, ça va être aussi des sujets sur lesquels on attend des gestes de part et d'autre ?
Alors je crois, et d'ailleurs il y a eu deux déclarations qui montrent que le gouvernement français lance des signaux. Il y a une déclaration du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian au Corriere della Sera, puis la déclaration de Nathalie Loiseau, l'interview de Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes au journal Le Monde, et tous les deux ont balancé une phrase en consistant à dire que le gouvernement ne s'opposerait peut-être pas à certaines mesures d'extradition. Alors là, évidemment, c'est la justice d'abord qui va traiter de ces affaires. On sait qu'il y a des magistrats italiens qui, en ce moment, travaillent avec des magistrats français sur des cas par cas. Après, il y aura d'abord une décision judiciaire et ensuite une décision politique. Il va y avoir des protestations, non pas en Italie, mais on annonce dans le journal Le Monde une tribune à venir de personnes qui vont défendre justement ce qu'on appelle, alors là, ça nous enverrait très loin, ça nous amènerait très loin. Là, je mets 40 000 guillemets, la doctrine Mitterrand. Donc on va avoir de nouveau une polémique franco-française sur cette affaire, certainement.
Alors, polémique franco-française, mais on l'a bien entendu dans le reportage de Louise Baudet, et vous l'évoquiez à l'instant, il est aussi beaucoup question des dissensions au sein même de la coalition au pouvoir. Ça fait partie aussi de la manière dont chacun utilise et constitue une figure de l'ennemi.
Oui, absolument. Luigi Di Maio, donc le mouvement 5 Étoile et Matteo Salvini, la Ligue, sont à la fois alliés, en concurrence, et en même temps, je crois qu'ils ont un certain art du compromis. Alors on peut discuter, tout le monde s'attendait depuis le 1er juin 2018, tous les observateurs pensaient que ce gouvernement ne durerait pas, et il dure. Et il dure pourquoi ? Mais parce qu'il a le plus haut indice de popularité de tous les gouvernements d'Union européenne après même durée d'existence. Le gouvernement le plus populaire actuellement en Europe est le gouvernement italien. Et du coup, ils ne peuvent pas rompre. Vous savez, dans les années 60, Aldo Moro, le leader de la démocratie chrétienne, parlant du rapprochement qui était en train de s'amorcer avec le Parti socialiste, avait dit « on parle de convergence parallèle ». Ça, c'est le génie italien. Bon, un oxymore pareil. Convergence parallèle. Eh ben, dans ce gouvernement, c'est des divergences parallèles. Ils sont divergents surtout, mais ils continuent d'avancer ensemble. Et par conséquent, il faut inventer des ennemis. Mais quand même, il faut rappeler que la France a une part de responsabilité parce que au mois de juin 2018, il y a eu les déclarations de Macron sur la lèvre populiste, ça a été rappelé. Il y a eu les déclarations de Bruno Le Maire consistant à dire les Italiens vont rentrer dans les clous. Il y a eu les déclarations du porte-parole Monsieur Griveaux disant que sur l'Aquarius, ça le faisait vomir. Bon, tout ça fait que, on peut le dire, qu'à un moment donné, le président de la République était bien content d'avoir des ennemis lui aussi. Et il en désignait deux, nommément Matteo Salvini et Viktor Orban. Donc voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle ça peut continuer jusqu'aux européennes.
Louise Baudet.
Mais un ennemi commun, vous le disiez, mais de nombreuses dissensions entre la Ligue et les 5 étoiles. C'est vrai que ce gouvernement est très populaire, il tient sans doute grâce à cela. Mais peut-il tenir longtemps ? Parce qu'il y a des élections en ce moment, il y a des élections européennes qui arrivent, puis il y a déjà des élections régionales. On l'a vu il y a quelques jours dans les Abruzzes, la Ligue de Matteo Salvini a très largement dépassé les 5 étoiles et le rapport de force s'est totalement inversé. On a une Ligue qui est au-delà des 30%, 5 étoiles qui tombe en dessous des 20%, c'est l'inverse de la situation qui prévalait l'année dernière. Est-ce que c'est pas suffisamment problématique pour les 5 étoiles ? Est-ce que c'est pas suffisamment problématique pour que finalement cette coalition explose ?
Oui, vous avez raison, c'est tout à fait vrai. Salvini est non seulement l'a emporté, il est en train de l'emporter dans les sondages, il est l'homme politique le plus populaire en Italie, il est l'homme qui est considéré comme l'homme du futur en Italie, et effectivement, il est en train de tailler la laine sur le dos du mouvement 5 étoiles. Et donc, il y a un dilemme pour le mouvement 5 étoiles. Jusqu'ici, ils ont eu tendance à coller à la culotte, hein, marquer à la culotte, comme on dit au football, Matteo Salvini. Je remarque que Matteo Salvini a aussi fait quelques concessions. Il a fait une concession sur le revenu de citoyenneté contre l'avis d'une partie de son électorat, notamment dans le nord de l'Italie, parce que c'est des chefs d'entreprise.
On a entendu la Confindustria.
Voilà, pour eux, c'est l'assistentialisme, c'est insupportable, etc. Il vient de faire une concession, semble-t-il, mais il fait toujours un pied à gauche et un pied à droite en disant sur le TAV, c'est-à-dire la train à haute vitesse dont vous avez parlé, le TGV, la ligne Lyon-Turin, il semble s'être aligné sur le mouvement 5 étoiles et puis quelques jours après, il dit non, mais on fera peut-être un référendum. Et donc, c'est un compromis permanent. Le mouvement 5 étoiles va devoir choisir. Et il y a des dissensions internes très fortes. C'est un mouvement très hétéroclite. Très souvent, on dit, et c'est une erreur en France, c'est un populisme de gauche en le comparant à la France insoumise. Ce n'est absolument pas vrai. C'est un mouvement qui est populiste, ni gauche, ni droite, et de gauche et de droite, avec une très forte composante écologique. Et donc, il est beaucoup plus hétérogène que la Ligue. Et il va falloir qu'il prenne une décision, effectivement.
Mais dans cette compétition interne, à quoi sert la rivalité avec la France qui est alimentée, on le voit jour après jour ?
Parce que ce qui unit ce gouvernement, c'est d'une part la prééminence de la nation. Ça, c'est un élément fondamental dans l'histoire de l'Italie. L'Italie était le pays le plus europhile, est devenu un pays très eurosceptique, plus eurosceptique que la France. Et donc, l'affirmation de la prééminence nationale, c'est ce qui unit le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Et donc, pour la construire encore plus, cette prééminence nationale, ce que Salvini résume d'une formule, les Italiens d'abord, eh bien, évidemment, il faut des ennemis. Parce que cette politique sur l'immigration, par exemple, la France a une part de responsabilité, à mon sens, considérable. Considérable. Et quiconque va sur la frontière à 26 000 mentons peut le voir des visous. Mais l'Autriche fait la même chose. Et le gouvernement italien ne s'attaque pas à l'Autriche. Donc la France, justement, ça permet d'accentuer encore cette volonté d'affirmer une existence, une souveraineté, une prétendue souveraineté nationale. Donc ça, c'est un élément très important. Et l'autre élément, c'est qu'effectivement, il y a déjà un sentiment de critique de la France, un sentiment anti-français. C'est vrai, vous avez eu raison, Louise Baudet, de partir du football, parce que cette finale, c'est quand même étonnant qu'une finale de mondial cristallise autant de choses. Donc ça, c'est révélateur. Et effectivement, il y a un sentiment anti-français très fort, et donc le gouvernement a besoin de l'accentuer, de l'exacerber sur tous les sujets. Et en même temps, il faut qu'il ait une marge de manœuvre à ne pas dépasser pour deux raisons. Il y a le président de la République, et il compte, c'est la figure de l'unité nationale, c'est l'institution la plus populaire en Italie, donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Et puis surtout, il y a les réalités économiques. Et donc, jouer avec ça, c'est risqué.
Vous le disiez, Marc Lazare, la France aussi, enfin la France et l'Italie ont chacun intérêt à avoir des ennemis réciproques.
Enfin, la France, Emmanuel Macron. Hein.
Oui, ce que je veux dire, c'est que du coup se dessinent deux visions de l'Europe dans un contexte où on est à quelques semaines du scrutin.
Alors ça sera peut-être l'aspect le plus important et le plus intéressant de cette élection européenne, de savoir si véritablement on va voir se confronter deux visions de l'Union européenne à travers La République En Marche, parce que ce ne sera pas le président de la République qui guidera la liste, bien sûr, de La République En Marche, et puis celle de ceux qui sont aujourd'hui considérés comme des populistes, des souverainistes, Marine Le Pen en France, d'une autre façon Jean-Luc Mélenchon, et puis en Italie, Matteo Salvini et Di Maio. Si on a un véritable débat de fond sur 1. Qu'est-ce que c'est que le projet européen ? 2. Quelles réformes à faire en Europe ? Et 3. Quelles valeurs européennes ? Ça aura du bon. Si c'est pour se tirer dessus en s'attaquant à Dominem, ça a beaucoup moins d'intérêt. C'est souvent la tentation d'un certain nombre de représentants du gouvernement, du mouvement 5 étoiles, la Ligue, avec des propos parfois à la limite de l'ordure, littéralement attaquant la personne même du président de la République quand ce n'est pas son couple.
Louise Baudet.
L'élection se présentait effectivement, et la campagne se présentait comme l'histoire d'une confrontation directe entre progressiste et nationaliste, mais là-dessus, Emmanuel Macron a un peu changé de braque. Il était complètement là-dessus jusqu'à l'automne dernier, et on sent depuis que peut-être il commence à se méfier de cette grille de lecture qu'il se préparait pourtant à considérer comme prédominante.
Oui, je pense aussi, je suis d'accord avec votre analyse, et je pense que ce qu'il a considéré, c'était que c'était très risqué, parce que s'il perdait cette bataille politique, évidemment, il serait très affaibli. Donc il essaye aujourd'hui de ne pas tomber dans ce piège, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à partir du mois d'octobre, pendant 2-3 mois, le gouvernement ne répondait plus aux attaques du gouvernement italien, enfin d'une partie du gouvernement italien. Et puis, bon, il y a eu cette affaire de Luigi Di Maio, les gilets jaunes, et surtout le choix. D'ailleurs, on voit, le côté enfantin du mouvement 5 étoiles, son absence d'expérience politique, parce qu'ils choisissent parmi les gilets jaunes, Monsieur Chalençon, je crois que c'est son nom, qui est un subversif, qui est quasiment quelqu'un qui pourrait être qualifié d'extrême droite, c'est le moins qu'on puisse dire, alors que le mouvement 5 étoiles, ce n'est pas son identité. Donc, on voit vraiment l'absence d'expérience politique. Et d'ailleurs, ils ont désavoué depuis le choix de Monsieur Chalençon.
Alors, on voit un peu ces allers-retours dans la stratégie et dans les manières de se positionner. Néanmoins, pour reprendre ce terme de peuplocratie qui est celui de votre ouvrage à apparaître, est-ce qu'il y a des choses communes dans cette manière de constituer la figure de l'ennemi, de constituer ces formes de rivalité ? Est-ce que ça dit quelque chose sur des nouvelles manières de faire démocratie ?
Je crois, en tout cas, l'idée de peuplocratie, c'est l'idée que justement les populistes, qu'ils soient au pouvoir ou pas, sont en train d'éroder complètement, de bouleverser les fondements de nos démocraties libérales et représentatives. Et que par conséquent, il ne faut plus s'intéresser simplement à ces mouvements-là, mais voir l'impact qu'ils ont sur la manière de faire de la politique, sur la temporalité, sur leur mode d'organisation, sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et effectivement, c'est aujourd'hui l'affirmation du peuple, de la souveraineté populaire sans limite, à la différence de la démocratie, qui est le pouvoir du peuple, mais avec une série de contre-pouvoir. Et effectivement, ça, c'est en œuvre actuellement en Italie. Je ne dis pas, nous ne disons pas avec Ilvo Diamanti, mon co-auteur, que la peuplocratie a gagné, mais c'est une dynamique, une potentialité, c'est l'enjeu, c'est le challenge, comme on dirait en anglais, qui est en train de se dessiner pour l'Italie. Et par conséquent, effectivement, Luigi Di Maio, pour vous donner une idée, Matteo Salvini, ne sont quasiment jamais dans leur ministère. Ils sont en campagne permanente. Et c'est ça aussi, maintenant, qu'ils imposent dans les relations internationales, dans une politique internationale de l'Italie qui est de plus en plus indéchiffrable. Parce qu'une fois, c'est pro-Poutine, une fois, c'est pro-Trump, une fois, c'est critique de l'Europe, une autre fois, c'est pour dire non, on veut être quand même en Europe, mais changer de l'intérieur de l'Europe. L'Italie est en train de dévisser aujourd'hui dans l'arène internationale, malgré les efforts des diplomates italiens, hein, qui essayent de maintenir la maison, si j'ose dire.
Ce que vous dites, du coup, c'est à l'œuvre en Italie. Est-ce que ça veut dire que ce qu'on vient de décrire sur les relations entre les deux pays est une des modalités de modalités à l'œuvre ?
À mon sens, oui, parce que ce que sont en train d'imposer les populistes et avec la peuplocratie, c'est qu'il n'y a plus d'adversaires en politique. Il n'y a plus que des ennemis qu'il faut anéantir. Et ça, c'est une transformation amplifiée par les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment la grande révolution technologique. On en parle beaucoup actuellement. Et ça a un effet. Et ça a un effet, y compris justement dans les relations désormais entre la France et l'Italie. Alors attention, hein, il faut quand même nuancer. Et votre reportage, Louis Baudet, je trouve, avait une très belle chute. Parce qu'on avait des gens, c'est pas simplement qu'ils étaient pro-français, mais ils disaient des choses qui sont réelles. C'est-à-dire que nos deux pays connaissent la crise politique la plus profonde. Mais il y a d'énormes relations économiques, toujours considérables, énormes, avec des gros enjeux et des relations culturelles, des relations d'instruction, d'éducation universitaire, de recherche. Et Dieu merci, tout ça continue. Et nous nous sommes tant aimés, on pourrait croire que c'est fini. Non, nous nous aimons toujours.
Merci Marc Lazare. Je rappelle que Peuplocratie, les métamorphoses de la démocratie, coécrit avec Ilvo Diamanti, paraîtra en mars aux éditions Gallimard. Italie, nous nous sommes tant aimés. Le grand reportage de cette semaine était signé Louise Baudet, réalisation Jean-François Braun, avec la technique aujourd'hui Anthony Thomasson. Réécoute podcast sur le site franceculture.fr.